Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Un cinéma qui nous fait rêver et dont nous avons follement besoin. Alors chaque samedi, entouré de mes intervenants, tous unis par cette passion commune, nous évoquerons les films qui sortent en salle, les films cultes à revoir sans modération, les news d'Hollywood avec Didier Alouche, et puis j'accueillerai un invité pour son grand entretien. Nous passerons également en revue son actualité, mais aussi les films de sa vie. Et pour cette première, notre parrain est un artiste qui sait aussi bien nous faire rire que nous émouvoir. Il s'est inspiré de Bourvil car il aimait sa gentillesse. Après avoir été le roi du camping, il a mis tout le monde debout, ou plutôt tout le monde d'accord, sur son grand talent de metteur en scène. Vous l'avez bien sûr deviné, c'est Franck Dubos qui sera avec nous à 14h30.
Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en biafite, il faut que t'étales. Hein.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, je vous parlerai en compagnie de mes confrères, critiques de cinéma, des films à découvrir en salle cette semaine, notamment France ou encore le joli film Fragile.
Est-ce que tu veux devenir ma femme ?
Oui, j'ai compris.
Oui ?
Ah, le soulagement, putain !
Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
Et on démarre avec notre thème de la semaine, la représentation du monde de la télévision au cinéma à l'occasion de la sortie de France, le nouveau film de Bruno Dumont en salle depuis mercredi.
Vous les journalistes, on changera quoi. Vous courez après l'audimat.
Et donc ?
Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles.
Ça va aller ma puce, on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe.
Alors qui est France ? Tout simplement la plus grande journaliste de chaîne d'infos en continu, incarnée par la brillante Léa Seydoux qui vit dans un monde privilégié, complètement déconnecté de la réalité. Et un jour, un accident sans gravité va la faire basculer et elle va remettre en question toute la manière dont elle exerce son métier. Après avoir été plutôt bien accueilli, je dis plutôt parce que ça reste un film de Bruno Dumont, donc c'est un cinéma qui divise. Cette satire du monde de la télévision va-t-elle vous rassembler dans nos salles obscures ? Eh bien moi j'ai hâte de le savoir et on en reparlera dans la troisième partie de l'émission en compagnie de mes critiques du jour. Mais ça m'a amené à m'intéresser à la télévision, au cinéma, la façon dont elle est abordée et d'ailleurs de différentes manières. Mais ce qui est certain, c'est que le petit écran a toujours inspiré le grand. Bien souvent, elle est traitée par le prisme du jeu ou de la télé-réalité, avant même l'heure de la télé-réalité, quand ce mot télé-réalité n'existait pas. D'ailleurs, souvenez-vous de Truman Show de Peter Weir, l'un des plus grands classiques du siècle dernier, puisque le film est sorti quand même en 1998, dans lequel, je le rappelle, Jim Carrey vit dans une télé-réalité sans le savoir.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, c'est interdit !
Pourquoi ? Il y a quoi de l'autre côté ?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Film sublime, poétique, mais surtout terriblement avant-gardiste. Et dans la même veine, d'ailleurs, en direct sur EdTV de Ron Howard, racontait l'histoire d'un parfait inconnu joué par Matthew McConaughey qui devient célèbre en étant filmé 24 heures sur 24.
C'est très excitant.
Oh non !
Oh chérie !
Ne fais pas ça ! Enlève-la ! Enlève-la ! C'est très embarrassant.
Alors voilà pour la télé-réalité, mais le jeu télé fascine aussi le cinéma. Regardez la saga Hunger Games, film qui raconte comment une nation entière se passionne pour des adolescents qui se tuent entre eux quand même.
L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel.
Quand on parle de jeux télé au cinéma, on pense forcément aussi au quiz show de Robert Redford qui revient sur les scandales des jeux télévisés truqués dans les années 50, échec au box-office à l'époque, mais nommé à l'Oscar du meilleur film et qui reste aujourd'hui un film culte. Et puis aussi, impossible de ne pas évoquer Slumdog Millionnaire, chef-d'œuvre de Danny Boyle avec Dev Patel qui joue le rôle d'un jeune orphelin des bidonvilles de Mumbai qui parvient à la dernière étape du jeu télé. Veut gagner des millions, lui permettant de remporter une somme colossale. C'est un film d'une humanité folle, un sens aigu de la mise en scène au service du réalisme social dépeint dans le film, et c'est vraiment un petit bijou. Alors la télévision au cinéma, c'est aussi souvent raconté par le biais de la fascination, celle du Joker par exemple, joué par Joaquin Phoenix, qui se rêve star du stand-up à force de regarder son show préféré à la télévision.
Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je m'en rends compte. C'est une comédie.
Et puis n'oublions pas les grands classiques, par exemple Le Prix du Danger d'Yves Boisset, encore une fois, film satirique d'anticipation sur les dérives de la télé-réalité à une époque, en 1983, je le rappelle encore, où ce mot n'existait pas.
Alors François, comment ça va ?
Ça va.
Le trac, un peu d'appréhension ?
En forme ?
Imbattable. C'est beau.
l'ambition.
Et puis, le monument, le cultissime Network de Sidney Lumet, film sorti en 1976, critique acerbe du monde du petit écran, film visionnaire sur le pouvoir des médias. Alors, je vous rappelle le pitch, c'est l'histoire d'un présentateur du journal télévisé depuis 15 ans et devant une forte baisse d'audience, la chaîne décide de se passer de ses services. Désespéré, il annonce son suicide en direct à la télévision. Et évidemment, je vous le donne en mille, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter. Alors, ce qu'on peut voir dans tous ces films, bien souvent, c'est la cupidité des personnages. Franck Vallière, vous êtes journaliste au cinéma, vous êtes à mes côtés aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Laurie, bonjour à tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la télévision était le média majeur de ces dernières décennies. Tout en rappelant bien sûr que la radio existe depuis bien plus longtemps. Tout le monde sait d'ailleurs que Marie-Antoinette écoutait déjà Europe 1, mais a eu une panne de tuner en route pour Varennes et ça lui a coûté très cher. Bref, la télé était le média majeur, détrôné entre-temps par Internet, mais pendant des décennies, il s'y brassait énormément d'argent et donc du pouvoir. Le cinéma a donc naturellement pris le pouls de la télé pour s'inquiéter des dérives potentiellement hégémoniques des producteurs, animateurs et patrons de chaîne. Certains films s'appuient sur des faits réels, d'autres sont purement d'anticipation. Et vous avez cité tout à l'heure Le Prix du danger. Alors si vous le voulez, je reviendrai à la fin de l'émission pour vous en parler dans le détail, car c'est un cas bien particulier qui mérite qu'on s'y arrête.
Avec plaisir, merci beaucoup Franck, à tout à l'heure.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
Tout de suite, c'est les news de la semaine et surtout une bonne nouvelle. Le cinéma se porte bien, même très bien. Bac Nord, l'excellent film de Cédric Jimenez, sorti le 18 août dernier avec Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou, sur une brigade de la Bac dans les quartiers nord de Marseille, est numéro 1 du box-office avec plus de 400 000 spectateurs. Et ça fait bien plaisir dans un contexte difficile.
Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini.
Arrête-toi !
Arrête-toi !
Arrête-toi, discute !
Individu en fuite !
Tu serais qui, toi, tu serais pas ton insigne. Tu serais quoi ? Tu serais rien.
Et puis OSS 117 alerte en Afrique noire, le nouvel épisode de la saga avec Jean Dujardin et le petit nouveau, Pierre Ninet. Quant à lui, continue de rassembler les fans d'Hubert Benisseur de la BAT, on l'adore. Le film sorti le 4 août a dépassé le million de spectateurs.
Que savez-vous de l'Afrique ?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien.
Très bonne analyse, Hubert.
Merci, Hubert. Côté festival, la vie reprend aussi. La 47e édition du Festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 3 au 12 septembre. Et c'est tout chaud, ça vient de tomber. La présence de Johnny Depp est confirmée. L'acteur sera là pour présenter le film City of Lies de Brad Furman, dans lequel il incarne l'inspecteur de police qui enquêta sur le meurtre du rappeur The Notorious Big dans les années 90. Bon, ça fonctionne toujours, un son de Notorious Big. Alors pour info, vous pourrez découvrir le film sur Canal+ à la fin de l'année. Voilà, c'était les news de la semaine, mais j'en connais un outre-Atlantique qui brûle d'impatience de vous faire partager les news d'Hollywood. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera avec nous chaque semaine. Bonjour Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Je ne sais pas comment s'est passé votre été, mais ici à Hollywood, c'était, comment dire, un peu spécial. Ce devait être l'été de la reprise, le retour des blockbusters sur les écrans, le public qui revient en masse dans les salles. Ça s'est pas exactement passé comme prévu. C'est pas la cata, mais pas comme prévu. Les chiffres, d'abord. Cet été, seuls 3 films, Fast and Furious 9, Sans un bruit 2 et Black Widow, ont dépassé les 100 millions de dollars. Dans les étés d'avant Covid, il y avait au moins une bonne demi-douzaine de blockbusters au-dessus des 200 millions de dollars et une bonne quinzaine de films au-dessus des 100. Il y a donc encore du boulot pour faire revenir les Américains dans leur salle, mais il y a quand même un roi du box-office de l'été 2021, ou plutôt une reine.
Vous ne savez pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies.
Scarlett Johansson, on dit ScarJo ici pour aller plus vite. Sa Black Widow a fini en tête du classement des entrées de l'été en Amérique et en plus, puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, enfin il paraît, ScarJo et son mari, le comique Colin Jost, ont annoncé la naissance de leur premier enfant ensemble, un petit garçon. Ils l'ont appelé Cosmo. Il rejoint sa grande sœur Rose, 6 ans, née du premier mariage de ScarJo avec le français Romain Doriac. Quant au box-office, il pourrait reprendre du poil de la bête dès cet automne puisqu'on a enfin appris cette semaine la date de sortie définitive, on croise les doigts très fort quand on dit ça, de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond. Le film en est à sa 5e date de sortie, merci Covid, mais ce coup-ci, c'est la bonne. Ce sera le 8 octobre aux États-Unis et 2 jours plus tôt en France. Et Daniel Craig ne sera pas la seule star de cet automne ultra chargé sur les écrans américains, puisque d'ici à Noël, on y verra Tom Cruise dans la suite de Top Gun, Angelina Jolie dans Eternal, Timothée Chalamet dans Dune, Kristen Stewart en Lady Di dans Spencer, Clint Eastwood dans Crime Macho, Lady Gaga dans House of Gucci, Will Smith dans King Richard ou encore Cate Blanchett dans Nightmare Alley, le nouveau Guillermo del Toro, sans oublier, bien sûr, la nouvelle version de West Side Story réalisée par Steven Spielberg. Si avec tout ça, les Américains ne retournent pas dans leur salle, c'est à n'y plus rien comprendre.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
Franck Dubosc, bonjour. Merci d'être mon premier invité de la saison dans Clap.
Merci à vous.
Alors, on vous a vu cet été dans le sens de la famille. C'est quelque chose que vous avez, ça je le sais. Et on va revenir aujourd'hui sur votre carrière. Déjà, comment allez-vous ?
Ben moi, je vais bien. Je vais comme une fin de vacances, un retour de, une rentrée. Donc moi, je suis toujours bien à la rentrée. J'ai ma nouvelle trousse, mes nouveaux stylos, mes nouveaux cahiers.
Un joli cartable.
Un joli cartable. J'ai gardé le cartable de l'année dernière.
Ah bon, bah très bien. Alors, je le disais, vous étiez cet été à l'affiche de la comédie Le sens de la famille. Alors bon, je refais le pitch, mais c'est une famille qui se réveille un matin et l'esprit de chaque membre est coincé dans le corps des autres, d'un autre membre de la famille. Si vous, une journée, vous deviez emprunter le corps de quelqu'un d'autre, qui choisiriez-vous ?
Mais je pense que je choisirais moi, mais à 20 ans.
Pourquoi ? Bah, l'insouciance.
Bah pour
ah pour le corps, ah oui ok, j'étais
tout,
pas
corps,
sur le côté
pour,
physique.
Ah non, pour l'esprit je garderai le mien. L'esprit je garderai le mien, pour le corps ouais, enfin moi à 20 ans si je peux prendre Brad Pitt, je prends aussi hein. On va dire que c'est mieux.
Bah vous n'avez rien à lui envier, voyons.
Oh merci.
La famille, Franck, ça a toujours été un moteur dans votre vie, dans votre carrière ?
Ah, toujours, non, mais depuis que j'en ai une, oui. Le premier moteur, c'était d'en avoir une, et une fois qu'on en a une, bah, c'est de la faire vivre, de vivre avec, de... Oui, c'est depuis que j'ai une famille que j'ai un nouveau moteur, plutôt. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Aujourd'hui, on se parle aussi, Franck, dans le cadre du festival Pellicou Live, qui est un festival qui mélange cinéma, live et gastronomie, un festival pour les bons vivants, en vrai.
Ben voilà, j'ai résumé. C'est le festival du bon vivant.
C'est
le festival de ouais, ouais, ouais. C'est le lâcher prise.
C'est une bonne philosophie de vie. C'est la vôtre, cinéma, musique, gastronomie. Ça fait partie. Bah, cinéma, forcément. Gastronomie, live.
Je suis moins gastronome. Je suis moins. Moi, j'aime le restaurant, mais plutôt pour pour la forme que pour le fond. C'est-à-dire pour les amis, pour aller.
Le partage.
Pour les rencontres, pour le partage. Après, maintenant, j'apprends avec le temps à apprécier ce que j'ai dans l'assiette, mais je me suis longtemps privé d'être bon vivant.
Vous cuisinez ?
Très mal, très très mal, très très mal. J'ai cuisiné longtemps dans ma chambre de bonne, mais c'était des omelettes au jambon.
Voilà, et des pâtes.
Et des pâtes, voilà. Non, je cuisine pas vraiment, franchement...
Bah vous ne pouvez pas tout faire en même temps, oui, c'est ça. Franck Dubosc, vous êtes aujourd'hui l'un de nos artistes les plus populaires. Moi, je voulais revenir un petit peu sur votre carrière. Le déclic, c'était cette femme qui vous a murmuré à vos débuts « J'ai adoré ce que tu as fait ». Et c'est là que vous avez compris que vous vouliez multiplier l'entente de cette phrase.
Ben, c'était ouais, ça dans l'humour, en fait. Au début, je voulais être acteur. Bon, je voulais être acteur pour être ce que je vois comme les jeunes maintenant veulent être footballeurs. Vous voyez, je voyais des vedettes à la télé et puis j'avais envie d'être ça. Et sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Et puis après, j'ai compris que c'était difficile, est-ce que c'était vraiment mon truc? Et puis un jour, on m'a demandé, avec toute une bande de copains, Philippe Lefebvre, Guillaume Canet, Arnaud Lemort, on nous a dit monter sur ce petit cube au fond du bar et puis vous allez faire des stand-up. C'était il y a une vingtaine d'années. Et on a fait ça, on est monté sur la scène, et là, je ne savais pas que je pouvais être un peu drôle. Et effectivement, en descendant de scène, il y a cette fille qui m'a dit oh, « j'adorais ce que tu as fait ». Et je me suis dit « c'est la première fois, en fait, je comprends pourquoi j'ai envie de faire ce métier-là. C'est pour avoir mes petits soldats, mon public, des gens qui me regardent et qui m'aiment. J'avais envie de me faire aimer, en fait, tout simplement.
Ben oui, mais ça fait du bien en même temps.
Et voilà. Alors après, je me suis battu pour le mériter, en fait, parce que faut le mériter et c'est
bien
pas
sûr.
Facile. Voilà. Donc, pour avoir le maximum de gens et puis quand on se bat pour avoir le maximum de public, bah forcément, on est aimé par beaucoup, détesté par d'autres. On s'ouvre à la lumière. Alors la lumière, elle n'est pas forcément toujours bénéfique.
Il y a souvent des revers de bâton. Vous en souffrez, oui. des critiques éventuelles ?
Oui, quand elles sont injustes. Quand, quand faut être franc, on est beaucoup à dire « Oh non, moi, je m'en fous, machin. » C'est pas vrai. Quand elles sont... les vraies critiques m'ont fait beaucoup avancer. J'ai souvent lu des trucs. Et puis, j'en lis parfois où je me dis « ils exagèrent » ou « ils sont restés... » ils sont... Bon, voilà. Bon,
surtout aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où on peut...
Ouais,
voilà, où chacun donne son avis.
Oui, je lis parfois des trucs. Alors, parfois, ça me fait sourire, parfois... Mais... Non, quand elles sont injustes, oui, une critique injuste. Moi, il y a des critiques, il y a certains critiques qui ont critiqué mon jeu ou certains films que j'ai fait, où je leur aurais serré la main en disant « t'as raison, je suis d'accord avec toi ».
Lequel, par exemple ?
Non, je le dirais pas, mais je dois dire que certains autres, j'ai envie parfois de les avoir en face, de dire « oh, t'exagères pas un peu ».
C'est abusé.
Bon, alors... mais oui, c'est abusé. Mais c'est ce dont ils rêvent qu'on leur dise « t'exagères pas un peu ». C'est ce dont ils rêvent.
Bien
je
sûr.
Me souviens de Christine Bravo un jour qui m'avait raconté, elle avait descendu, je ne sais plus, qui Balavoine. Elle l'avait descendu et un jour, il en a parlé, il a parlé d'elle. Elle m'a dit « mais je jubilais ». Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'elle l'avait descendu et elle jubilait du fait qu'il parle,
d'elle,
qu'elle le mette, qu'il la mette dans la lumière. C'est souvent ça aussi, les journalistes ont ça aussi. Mais il faut respecter, c'est le jeu, c'est le jeu.
Oui, c'est vrai qu'il faut, bien qu'il y ait des mauvais côtés dans ce métier, c'est ça. Mais justement,
il y en a des très justes, hein.
En parlant de bienveillance, Franck, vous citez souvent Bourvil parmi vos modèles pour sa gentillesse, pour ce qu'il dégageait.
Ouais, je trouve que c'est... d'abord, on est normands tous les deux. Et puis, je trouve que, oui, Bourvil, c'est la gentillesse. C'est moi, souvent cité des exemples de gens. J'ai rencontré des gens qui avaient tourné avec lui. Et à chaque fois, c'était quel homme, quel bonhomme, quelle gentillesse. Donc, moi, je ne l'ai jamais croisé, bien sûr. Mais j'ose le croire. Je pense qu'il était celui qu'on imagine.
Je voulais aussi, évidemment, aborder la réalisation. Vous venez d'en parler. Vous y êtes venu tard. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est vraiment votre moteur.
Ouais, j'adore ça. Et plus je me penche là-dessus, plus je me dis que c'est... En fait, tout le reste a été une parenthèse parce que moi, jeune, à 13-14 ans, j'avais ma petite caméra Super 8 et je réalisais des films avec des copains. Et je me suis, à cette époque-là, je me suis dit, mais je les faisais chier. J'allais voir mes voisins en dessous, ils étaient encore en pyjama. Je leur dis, allez, on fait un film. Et sur tous mes petits films Super 8, je n'y suis pas. J'étais le réalisateur. Et à ce moment-là, je me suis dit, être réalisateur, c'est faire chier les autres. C'est être le chef, en fait. Être le chef de gens qui n'ont pas forcément voulu. Et j'ai abandonné l'idée. Et puis, pendant longtemps, je suis pas capable. C'est pas mon truc de part. D'abord parce que c'est un métier, et ensuite parce que j'avais pas envie de diriger des gens. J'avais pas envie d'être celui qui dit fais ci, fais ça. Et au moment où je me suis rendu compte, d'abord, c'est parce que j'avais cette histoire de Tout le monde debout que tout à coup je me suis dit c'est peut-être le bon moment.
Votre premier long métrage.
C'est un ami aussi, surtout Cyril Colbeau-Justin, qui est mort l'année dernière, qui m'a dit vas-y, tu le fais, c'est celui-là, c'est le tien. Alors j'étais un peu vieux, mais j'avais compris que aussi être réalisateur, c'est pas emmerder les autres, c'est réunir une équipe, c'est faire un travail d'équipe, et voilà. Et puis là ça m'a. Je fais beaucoup de films, j'ai encore beaucoup de films à faire en tant qu'acteur, mais c'est vraiment mon bonheur absolu, c'est l'écriture et la réalisation. Alors, l'écriture de films pour les réaliser derrière.
Tout le monde debout. Moi, j'étais présente au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Je me souviens de votre consécration, de votre émotion, de l'accueil du public pour ce film. C'est votre premier film en tant que réalisateur. C'est quand même un petit bijou. Et en plus, un film qui a réuni le public et la critique. C'est vraiment une belle fierté. Mais surtout, voilà, j'ai en tête votre émotion qui était tellement forte.
Ah ouais, c'était... Oui, parce que parce que c'était vraiment moi. C'est la première fois que c'était moi, donc ça passe ou ça casse. C'est-à-dire ça plaisait ou ça plaisait pas, mais je l'assumais entièrement. Quand on est acteur, y a des fois on a fait un film et puis on le trouve un peu moins bien que ce qu'on aurait cru. On a été dirigé. On a tendance à remettre un peu les fautes sur les autres. Ce qui est pas
oui, on,
cas,
on mais... peut se cacher sur un montage, voilà. Derrière un montage, un partenaire, une direction d'acteur.
Oui, on a tous ces petits trucs-là qui sont vrais ou faux. Hein, mais là, le film... Et c'est comme les spectacles. D'ailleurs, c'est moi. Je l'ai écrit, je l'ai réalisé, j'ai choisi mes acteurs. Chaque fois qu'on félicitait Alexandra Lamy, qui est extraordinaire dans le film, ou Elsa Silberstein, je prenais tout Gérard Darmon, je prenais tout le bonheur pour moi. Je me disais, ils sont dans mon film, j'ai toute cette fierté. Je me souviens du premier soir à l'Alpe d'Huez. J'étais dans l'hôtel où on est tous, que vous connaissez, et les gens venaient me féliciter, et j'ai pas fait la fin de la. la soirée parce que j'ai voulu monter dans ma chambre pour savourer ça tout seul. Je me suis dit, c'est trop, je m'arrête là. Je prends le bonheur.
Trop d'émotions.
Je monte avec dans ma chambre. Voilà. Je monte avec dans ma chambre. J'en veux pas plus. J'en ai eu assez. Et je me suis endormi avec ce bonheur-là pendant que les autres faisaient la fête en bas.
Et ensuite, le film est sorti en salle et a très, très bien marché en salle. Et j'étais ravie pour vous parce que c'est vrai que c'est un excellent film. Alors, vous avez pris votre temps et vous avez préparé votre second long-métrage qui va sortir, je crois, au mois de janvier.
Mois de janvier, ouais, fin janvier, si. Après, les dates en ce moment, ouais,
c'est ça, on peut plus s'y fier.
Voilà, pour l'instant, c'est le 26 janvier.
On peut en parler ?
Oui, bien sûr. Oui, ça s'appelle Rumba la vie. Mm-hmm. Et c'est avec une jeune fille qui s'appelle Luna Espinosa qui fait ma fille. C'est l'histoire d'un chauffeur d'autobus scolaire, donc pour enfants, et qui suite à une crise cardiaque, se rend compte qu'il a loupé sa vie et il a abandonné sa femme, il a abandonné sa fille. Il y a 20 ans, elle décide de la retrouver, sa fille, et pour ça, il s'inscrit dans le cours de danse dans lequel elle est prof, incognito.
Génial.
Pour la rencontrer, voilà. La danse pour lui, c'est pas du tout son truc. et il va se retrouver avec cette fille, qui. Le film, c'est surtout sur l'abandon. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui vous abandonne
C'est ça, est-ce qu'on a le droit à une seconde chance?
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a le droit à une seconde chance? Et c'est le film.
Comment reconquérir ses enfants, comment reconquérir sa femme aussi.
Ou même, alors là pour le coup, c'est comment conquérir même sa fille, puisqu'il ne l'a jamais connue. Il est parti quand elle avait 8 mois dans le film. Mmh. Et elle ne sait même pas, quand il s'inscrit dans ce cours, que ce monsieur, c'est son père.
Donc ça va être encore un film qui va nous faire rire et pleurer.
Ouais, normalement, oui, c'est les deux. Oui, on a fait beaucoup de projections déjà. En général, les gens pleurent à la fin. Mais pleure de tristesse, justement, on pleure parce qu'il y a une émotion, on est tous enfants ou parents. Mmh. Donc c'est très compréhensible.
Ça parle à tout
l'émotion.
Le monde. Franck Dubosc, mon invité aujourd'hui, premier invité de la saison pour Clap, notre parrain. Et on va parler maintenant, Franck, des films de votre vie. Alors si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Mon meilleur souvenir
c'est difficile.
De cinéma. Oui, il y en a beaucoup. D'abord, mes meilleurs souvenirs au cinéma, ce sont des premiers films dont je ne me rappelle plus les titres parce que c'était là qu'on emmenait nos amoureuses pour essayer de lui prendre la main. Donc je ne me souviens plus des films, forcément. Je me souviens des amoureuses, mais pas des films.
Et c'est puis, déjà bien. C'est respectueux pour l'amoureuse.
Oui. Mais mon premier souvenir, je vais vous dire, j'ai un grand souvenir de cinéma parce que c'est mon père qui m'avait amené voir un film pour la première fois au cinéma. C'était Il était une fois la Révolution, un film de Sergio Leone. Et croyait que j'adorais les films de cow-boy, les westerns. Mmh. Et celui-là, je devais avoir 10-11 ans. Et il s'est dit, je vais l'emmener voir un western au cinéma au lieu de la télévision, qu'on voyait en noir et blanc en plus. Donc là, on s'est retrouvés là. Et le début du film est très violent. Très, très violent. Et là, mon père m'a dit derrière, je me suis dit, c'est pas pour mon fils du tout, il est trop petit. Et puis, donc c'est resté ce souvenir. La première image, c'est un mec qui pisse sur une fourmilière. Et en fait, le film, c'est pas tant le film qui est un très bon film, mais c'est le fait que mon père m'y a emmené.
Oui, que vous avez vécu ça avec votre père.
C'est d'aller au cinéma avec mon père pour la première fois.
Vous aviez
quel
âge ?
Avant, il y avait les dessins animés. Hein. Oui. J'avais 11 ans. En fait, il y avait eu les dessins animés avant. C'est le premier film cinéma. J'avais eu des dessins animés. Je vais vous dire, mon premier dessin animé, c'est Bambi. C'est une rediffusion de Bambi au cinéma. J'avais 4 ans et ma mère m'a raconté. Je voulais y aller, Il m'avait dit non, tu vas t'endormir, t'es trop petit. C'était un soir de Noël. Et j'ai dit non. Enfin, on m'a raconté, hein, je m'en souviens plus. Non, je ne m'endormirai pas. Et donc, ils m'ont emmené voir Bambi. Je me suis endormi.
Moi, ça vous a évité de pleurer, parce que moi j'ai beaucoup pleuré devant Bambi.
Oui, parce que c'est triste.
C'est triste quand même.
Ouais. Mais ça va être le premier. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
Et puis l'autre à 11 ans, donc c'est votre premier
et
film
après,
de grand.
Le premier film de cinéma, c'est Il était une fois la Révolution.
Et votre séance de cinéma la plus dingue ?
La plus dingue, peut-être. Parce qu'il y a aussi une séance d'émotion. La plus dingue, c'est peut-être. Oui, ce serait la projection de Tout le monde debout, justement. Mmh. On était à l'île Maurice, et puis le film Tout le monde debout venait de sortir, et je l'avais sur mon ordinateur. Et je dis au directeur de l'hôtel, si on se fait une projection sur la plage.
Génial.
Et donc, ils nous organisent ça. Et on est dans un petit endroit avec des petites tables, avec un petit arbre, la plage devant et tout ça. Et là, le film s'arrête toutes les 3 minutes parce qu'il y a des oiseaux qui nous chient dessus et qui chient sur le truc play. Je vous jure, c'est vrai. Et ça tombe dessus, à chaque fois, ça arrête l'image. Vous savez, et au début, on se demande, ça fait stop, qu'est-ce qui se passe? Et il y a le mec qui regarde, c'est tout un petit matériel amateur. Hein.
Oui.
Et en fait, le film s'arrête parce que voilà. Et on se retrouve avec des gens qui se retrouvent aussi avec des merdes d'oiseaux.
Partout.
Voilà.
Bon, vous êtes arrivé jusqu'à la fin ou pas?
Et on est arrivé jusqu'à la fin, et le film a plu quand même. Voilà.
Le film que vous avez honte d'aimer?
Alors, il n'y a pas de film que j'ai honte d'aimer parce que ce serait, je trouve ça toujours, vous savez, les chansons qu'on a honte d'écouter, tout ça. C'est dégueulasse de dire ça parce qu'en fait, c'est un petit peu, c'est un peu prétentieux d'avoir honte d'aimer quelque chose. C'est par rapport à la chose qu'on aime, voyez?
Bien sûr.
Mais je pourrais dire que j'ai adoré La Septième Compagnie, j'ai adoré les films des Charlots, j'ai adoré tous ces films. Mais il n'y a pas de film vraiment.
Il n'y avait pas le film de la honte.
Non, parce que chaque film est un vrai film. C'est toujours une œuvre, même si elle est plutôt.
C'est ce que j'allais dire quand on connaît le travail qu'il y a derrière un film.
C'est ça.
Votre.
Il y a des gens qui croient que parce que le film est moins bon, on a moins travaillé.
C'est ça.
C'est absolument faux. Non.
Le film que vous revoyez sans cesse.
Papillon. Papillon avec Dustin Hoffman. Mmh.
Pourquoi?
Ça et Steve McQueen. C'est un film qui est très long, qui dure presque 3 heures, et à chaque fois que j'arrive à la fin, je ne sais pas pourquoi, j'adore ce film. Alors est-ce que c'est parce que, alors ça se passe au bagne de Cayenne, est-ce que c'est parce que mon arrière-grand-père, moi, est mort au bagne de Cayenne, mais j'ai une passion pour ce film. Je trouve qu'il a plusieurs actes et plusieurs, il est découpé en, on ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, et ça ne se redit jamais, je ne sais pas comment, ça avance, j'adore ce film.
Et votre comédie romantique préférée?
Ah, quand Harry rencontre Sally. Mmh.
Ah, magnifique.
Ah ouais. Voilà.
Culte. Vous êtes romantique, vous, d'ailleurs?
Oui, ouais. Moi, je l'étais un peu plus jeune, maintenant la vie m'a appris à l'être un peu moins, mais oui, mais en tout cas, j'aime les films romantiques, ouais, j'aime les comédies romantiques.
Et le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Mais je pense que quand Harry rencontre Sally, pour New York, pour le jour de l'an, sous la neige, je pense que c'est ça, c'est ce genre de film. Ou alors ça aurait été dans Grise.
Ah, pas mal aussi, j'avoue.
Ouais.
Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir?
Il était une fois la Révolution. Mmh. Après, j'ai pas de... Les films que je découvrais avec mes parents, c'était tous les films, mais c'était à la télévision, hein, c'était pas au cinéma. C'était les films de Claude Sauté, parce que c'était leur génération.
Oui.
C'était on fumait à l'écran, on avait les cheveux dégarnis. On a l'impression qu'il y a plus de chauves aujourd'hui. Vous savez, les gens sont tous rasés, les chauves à la Piccoli, avec les grosses pattes et tout ça. C'est tous ces films-là qui me faisaient, que mon père me laissait regarder alors qu'il y avait de l'école le lendemain.
Et le film que vous êtes fier d'avoir fait découvrir à vos enfants?
Ah, c'est Les Disparus de Saint-Agile.
Magnifique.
Ah, c'est un vieux film, hein,
ouais,
mais
ouais.
C'est parce que, alors en fait, c'est pas tant pour le film, c'est d'avoir réussi à les passionner sur un vieux film en noir et blanc.
C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui.
C'est très compliqué. Et alors là, depuis quelques jours, j'essaie de leur montrer mes films.
Oui. Alors.
ça marche. J'y vais très doucement.
Vous avez commencé par lequel?
J'ai commencé par Le Marquis, j'ai fait Incognito. Ils n'ont jamais vu Camping, hein, mes enfants.
Ah oui?
Non. Alors, ils ont vu Tout le monde debout, ils ont vu les derniers parce qu'ils étaient aux avant-premières, mais ils s'en foutent un peu, très honnêtement. Mais quand ils finissent le film, ils sont contents. Ils sont contents. Le Marquis, je l'ai fait un peu par prétention parce qu'ils aiment les films de gangsters et je suis un peu gangster.
Oui, c'est vrai.
Donc, je l'ai fait un peu pour montrer que papa aussi,
ouais,
il s'est manié. Voilà.
Il s'est manié les armes.
Voilà.
Franck, chaque semaine, on parle musique aussi dans Clap. Si je vous demande votre bande originale de film préférée.
Oh, bah, La La Land.
Ah oui. Magnifique.
Mais là, c'est très musical, pour le coup. Et puis après, pour éviter les films musicaux, parce que, Coup de foudre à Notting Hill.
Ah oui, c'est vrai.
Mais j'adore la musique au cinéma. J'adore ça.
C'est vrai.
J'adore. Oui.
Mais c'est indispensable.
J'ai toujours beaucoup beaucoup de musique. C'est Sylvain Goldberg qui me fait mes musiques et je. D'ailleurs, le troisième film que j'écris, c'est un chanteur, donc qui part chanter à l'international. Et j'ai beaucoup de musique dedans et c'est vraiment pour moi la musique au cinéma. C'est vraiment un des acteurs les plus importants du film.
Ouais, je suis bien d'accord.
J'écris en écoutant de la musique.
Quelle musique ?
Il y a toujours une musique qui correspond au film que j'écris et qui ne sera pas forcément dans le film.
Mais qui vous inspire dans l'écriture.
Mais qui m'inspire, exactement. Ouais, ouais. Là, en ce moment, celle que j'écoute pour écrire mon troisième film sera normalement dans le film. Donc, je l'écoute beaucoup, mais j'écris en musique. Alors, il faut faire attention, parce que c'est une musique très, très dramatique, tout devient dramatique.
Oui, c'est ça.
Ce que j'écris. Donc, il faut se remettre un peu de rigolo derrière pour arriver à faire les deux.
La bande originale qui vous émeut à chaque écoute ?
C'est... écoutez, c'est celle de Tout le monde debout. Je suis désolé, hein, mais c'est ce que m'a fait Sylvain Goldberg. Il y a une scène, et il y a la musique qu'il a fait avec la scène et les actrices, Alexandra Lamy et Caroline Anglade. Cette scène, par la musique, m'émeut à chaque fois.
C'est quelle scène ?
C'est la scène. C'est une scène où elles sont dans un petit magasin et Alexandra Lamy lui dit qu'elle sait que mon personnage est handicapé. Et elle lui dit à la fin, qu'est-ce que tu vas faire quand il va te le dire ? Elle lui dit, je vais lui dire au revoir. Mmh. Et il y a quelque chose comme ça, il y a la musique qui monte et à chaque fois elle m'émeut.
La bande originale qui vous met de bonne humeur ?
La Land.
Bah aussi, vrai qu'elle en même temps, La Land, ça marche un peu pour tout.
Oui, tam, 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 tam,
oui, c'est tam, ça.
Tam. Ah, oui.
Bon, alors celle que vous écoutez pour faire du sport ?
Celle que j'écoute pas de musique de film pour faire du sport, j'en regarde.
Vous faites du sport quand même ?
Ouais, je fais du sport devant des séries ou des films.
Bah, moi, c'est Rocky. Elle marche bien quand même pour faire son sport.
Oui, ça marche bien. Oui, ça pourrait. Oui, mais je peux faire du sport avec des musiques douces, moi aussi.
Ah oui ?
Ça me dérange pas.
Vous faites du yoga, alors, ou de la méditation ?
J'allais dire, je ne suis pas le rythme, ou alors je suis le rythme, mais comme ça, je ne me fatigue pas.
Merci beaucoup, Franck Dubos. Vous étiez mon premier invité de la saison dans Clap. Et je rappelle que vous participez au festival Pellicule Live à Thuir, dans le Sud, qui se clôture ce soir avec une masterclass en compagnie de François-Xavier de Maison, qui est le parrain de cette première édition. Un concert de Fatal Bazooka aussi, alias Michael Youn, et d'autres surprises. Donc Pellicule Live, première édition, ce festival sur lequel il faudra désormais compter, qui mélange 7e art, live et gastronomie.
Europe 1. 14h-15h. Clap. Laurie Choleva.
C'est la dernière partie de Clap. On va s'intéresser aux différentes sorties de la semaine. Et j'accueille autour de la table deux confrères critiques de cinéma. Mélanie Klein, vous êtes responsable du cinéma pour le magazine Biba. Bonjour.
Bonjour Laurie, enchantée.
Et Victor Bonnefoy, vous avez créé le podcast Pardon le cinéma et bravo pour ça.
Merci beaucoup et bonjour.
Merci à tous les deux. Alors on va faire un tour d'horizon des films actuellement en salle. Si vous aimez les films de genre déjà, Don't Breathe 2, la suite donc du film Sensation où de jeunes cambrioleurs s'introduisaient dans la maison d'un vétéran a priori inoffensif. Et le 2, eh bien, tient ses promesses. Voilà, c'est en salle cette semaine. La Terre des Hommes de Naël Marandin qui s'inscrit dans une nouvelle veine du cinéma français, à savoir le drame paysan. On se souvient des succès récemment d'Au nom de la Terre avec Guillaume Canet ou encore Petit Paysan qui a obtenu plusieurs Césars il y a 3 ans. Et là, c'est un drame, là, en milieu rural, celui d'une jeune agricultrice victime d'harcèlement.
Qu'est-ce qui s'est passé chez M. Rousseau ?
Qu'est-ce qui s'est passé chez moi ?
Bah vas-y, dis-lui, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est pas ce que tu crois, je te jure.
C'est quoi alors ?
Constance ! Constance !
Si c'était vrai, tu m'en aurais parlé, non ? Attends, tu crois que j'invente, là ? T'as pensé à sa famille, sa femme, ses gosses.
Et puis France, le nouveau film de Bruno Dumont s'attire sur le monde de la télévision, porté par une Léa Seydoux épatante, présente sur quasiment tous les plans. C'est vraiment le film qui a fait parler au dernier Festival de Cannes. Alors, je vous regarde tous les deux. J'en vois qui regardent leurs pieds. Victor, on va commencer par toi. Tu en as pensé quoi de France ?
Moi, j'avais très très hâte de voir France, notamment parce que je l'ai vu dans le contexte du Festival de Cannes où Léa Seydoux était omniprésente. Elle était dans 4 films de la sélection et notamment dans des films où elle a eu des prestations assez remarquables. Je pense notamment au dernier Arnaud Desplechin, Tromperie, où elle crevait l'écran.
Omniprésente, mais pas présente. Parce qu'on rappelle qu'elle a eu le Covid, donc elle n'a pas pu monter les marches.
Exactement, mais omniprésente dans nos cœurs. Et au final, j'attendais beaucoup France qui arrivait en fin de sélection. Et Dieu sait que je suis tombé de haut, puisque j'étais pas particulièrement familier du cinéma de Bruno Dumont à ce moment-là. J'avais quand même quelques codes.
C'est ce que j'allais dire, parce que ça divise le cinéma de Bruno.
Ça a tendance à diviser, mais en fait, il y a autant de choses que j'aime dans le film que de choses qui me posent problème. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis séduit par les comédiens et par les comédiennes, surtout, à savoir Léa Seydoux et Blanche Gardin, qui... On a la sensation quand on les regarde jouer qu'elles jouent pas dans le même film, ce qui crée un décalage assez intéressant, et notamment quand Léa Seydoux a des scènes avec Benjamin Biolay, il y a plein de choses
qui jouent son mari,
exactement, très intéressantes qui se produisent. Mais après, je suis embêté par le fait que autant la forme m'intéresse, autant le fond me laisse à côté. C'est-à-dire que J'ai l'impression que Bruno Dumont esquisse, et on l'a bien compris dès les premières bandes annonces, une critique des chaînes de télévision, d'information en continu, avec une volonté de taper dessus et sur la mise en scène de ces émissions-là. Et le fait est qu'il n'a pas grand-chose de plus à nous raconter dans le film que ce qu'il nous raconte dans les 10 premières minutes. Et pendant les 10 premières minutes, il me dit « Regardez quand même, la télévision, elle met en scène le réel. »
Oui, parce qu'on rappelle, pardon, que Léa Seydoux incarne France, cette journaliste vedette de cette chaîne d'info en continu, qui se met en scène dans ses reportages, voire les bidonnes, et complètement déconnecté de la vie réelle.
Oui, mais c'est marrant que vous disiez ça, parce que quand vous avez dit ça, vous avez dit tout le propos de Bruno Dumont sur cette situation-là.
Pas du tout.
C'est-à-dire que... on va pas être d'accord, mais c'est parfait. Mais justement, quand on en arrive quand même à nous faire 10 fois la même scène dans le film avec « Regardez, elle met en scène le réel, et elle va pas bien. Et en plus, elle s'appelle France, parce que... la France va pas bien.
Parce que la France va
la
mal.
La France a peur.
Bon, alors Mélanie.
Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Pour la première fois, Bruno Dumont n'officie pas dans le bizarre. C'est un film plutôt normal sur la perte d'identité d'une femme qui est confrontée au réel, à la pauvreté alentour et qui, en prenant conscience de tout ça, va complètement... tomber dans les limbes de l'enfer, vouloir être à nouveau anonyme et c'est magnifique pour ça, accompagné par une musique très mélancolique qui sous-titre un peu tout le film, une musique de Christophe.
Oui, sa dernière bande originale d'ailleurs.
Voilà.
Rien que pour ça, faut y aller effectivement. Oui. pour la prestation de Léa Seydoux que moi je trouve extraordinaire dans le film et que j'espère voir au César. Voilà, je me permets de le dire. Alors, autre film dans les salles cette semaine, Fragile, premier long métrage d'Emma Benestin sur fond d'été, de peine de cœur, de reconquête, de bulle de légèreté, d'amitié et aussi d'huître. Ça donne envie de repartir en vacances. L'histoire d'Az, amoureux et conduit par sa petite amie, star de la série policière locale, qui vient donc de refuser sa demande en mariage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tous les deux, de Fragile ?
C'est magnifique. C'est baigné par la lumière sétoise, familière au film de Kechiche, que j'aime beaucoup.
Et oui, c'est vrai, parce qu'Emma Benestin était monteuse pour Abdelatif Kechiche.
Exactement. Et c'est un film sur une rupture, mais qui n'est pas sponsorisé par le Xanax, comme 99% des films français sur les ruptures. Donc, c'est une rupture qui se soigne par l'amitié, la danse. Oulaya est formidable.
Oulaya Mamra, oui, ouais. qui joue la copine qui va sortir son pote de la déprime et qui est voilà. Absolument incroyable.
Une déprime qui n'est pas montrée sous le prisme de la déprime, mais directement sous le prisme de la Renaissance.
C'est... Bon, il pleure un peu à un moment donné quand même.
Ouais, mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu. En tout cas, ça fait du
c'est
bien.
Vrai,
c'est le film de fin d'été qui fait du bien.
Ouais, je suis complètement d'accord. Victor ?
Moi, je suis d'accord avec ça. Et puis le titre Fragile raconte tout le film et raconte même tout le processus du film. C'est-à-dire qu'on est là pour inverser les genres, on est là pour inverser le trope habituel de nous sommes dans une comédie romantique post-rupture et comment allons-nous nous reconstruire. Et ben l'homme va se reconstruire à travers une certaine recherche de fragilité, va se reconstruire justement à travers essayer de se déconstruire lui-même, essayer de déconstruire ce truc de non, je dois être un mec dur, je vais rester chez moi, manger des Ferrero en regardant des comédies pourries à la télé. Ben justement, ils vont réussir à se reconstruire par la danse et se reconstruire par le groupe, en fait, à quel point le groupe devient sauveur de cette personne. Et notamment, on le citait, mais Oulaya Mamra dans le film est absolument formidable. Elle crève l'écran, et ce déjà depuis des années. Elle était d'ailleurs dans le premier court-métrage de la réalisatrice du film, et c'est marrant qu'on ait cité son travail avec Kechiche, parce qu'on se pose un peu des questions au début. On se dit, est-ce qu'on va se retrouver avec cette réalisation à la Kechiche, avec cette caméra en stead qui va suivre tous les personnages et tout? Et non, au final, il y a de la construction d'image, il y a de la construction du plan, il y a de la beauté, il y a de la beauté chez les personnages, il y a de la beauté dans l'image. Et non, c'est un vrai petit coup de cœur inattendu qui va pas réinventer le scénario de la comédie romantique, mais qui va justement y apporter des petites choses qui nous font du bien en cette fin d'été. Moi, ça me donne envie de danser.
Ah bah allez-y. Hein.
Ah bah, allez-y. Alors, dommage que ce soit la radio, ça aurait été formidable.
On pourra mettre une petite vidéo sur Internet,
non,
ça s'arrange
non, ça. Pas ça.
Surtout, je voudrais rajouter sur ce film beaucoup d'humour aussi, avec ces pastiches de ces séries policières. Il y a des petites respirations assez amusantes. Et puis aussi, ce comédien, Yacine Ouicha, tous les deux, comme Oulaya, révélés par le film Divine, ils sont absolument épatants. On va dire un mot, pardon.
Oui, bah, je voulais juste rajouter, parce que vous citiez les comédiens, tous les comédiens sont incroyables, et je voudrais citer aussi Tiffaine Davio, qui joue l'ex du personnage principal et qui, elle aussi, qu'on avait vu dans plein de trucs, notamment dans la série Marianne, on l'avait vu dans plein de choses. Vraie découverte, je pense qu'elle va avoir des premiers rôles très bientôt et ce sera formidable.
Un bon vivier. Alors un petit mot très rapide sur Réminiscence, le blockbuster de la semaine qui sort sur 500 salles, 500 copies dans le jargon cinéphile, avec Hugh Jackman, film de science-fiction.
Vous allez faire un voyage. Un voyage dans votre mémoire. Il vous suffit de suivre ma voie.
Je vous vois bouder tous les deux.
Réminiscence, ce qui est drôle, c'est que c'est un film sur, sur les souvenirs. Enfin, c'est l'histoire d'un mec qui invente une machine pour se replonger dans des souvenirs précis et les revivre. Et ce qui est ironique, c'est que je n'ai aucun souvenir de ce film. Donc c'est comme ça que je pourrais le résumer. Et c'est vraiment dommage parce que Hugh Jackman, comme à son habitude, est formidable. Il y a la magnifique Rebecca Ferguson que j'avais découvert dans Mission Impossible qui est super. Et c'est dommage que ces grands acteurs soient noyés dans une quasi-absence d'enjeux. Enfin, il n'y en a pas, à part savoir pourquoi la femme qu'il a aimée est partie. Donc ennui, longueur. Et la réalisatrice est la femme du frère de Nolan. Et elle est aussi co-réalisatrice de Westworld. On sent bien dans sa patte qu'elle essaye de faire comme lui, mais ça ressemble un peu trop à un téléfilm pour moi. Je suis passée à côté.
À côté.
Non, mais c'est marrant Victor. Qu'on parle de cette idée que le film parle de souvenirs, parce que c'est un film qui nous demande constamment de regarder dans le passé. C'est un film qui n'arrête pas de nous hurler au visage. Vous avez vu Blade Runner ? Vous avez vu les films noirs des années 50 ? Vous avez vu Waterworld ? C'était vachement bien, hein ? Bah, nous, non. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de regarder un film qui est censé être créé par la co-créatrice de Westworld, qui brillait par son écriture à l'époque, et qui là, on se demande presque s'il a été écrit, tellement les enjeux sont pataux, tellement tout le récit, au bout de 45 minutes, on se dit, mais où est-ce qu'on va avec ça ? Et tiens, voilà un twist auquel tu t'attendais depuis la première minute. Non, c'est un vrai ratage qui me rend très triste parce qu'il est servi par des comédiens fabuleux et notamment Hugh Jackman. Mais oui, moi aussi, j'en ai pas grand souvenir et je vais plutôt aller revoir Blade Runner. Ça va être pas mal.
Merci à tous les deux. Et puis côté plateforme, un vrai coup de cœur pour Only Murders in the Building qui arrive sur Disney+, série policière de 10 épisodes qui démarre le 31 août avec Steve Martin et Selena Gomez. Alors le pitch rapide, trois personnages qui vont enquêter sur un meurtre perpétré dans leur immeuble new-yorkais, tous les trois ayant pour point commun d'être passionnés par les affaires criminelles. J'ai envie de dire, ça tombait bien. Une série haute en couleurs, à ne pas manquer surtout, vraiment je vous la recommande. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres critiques qui viendront décrypter l'actualité des sorties salles. Et puis j'ai à mes côtés Franck Vallière. Vous étiez avec moi en début d'émission. Je vais vous laisser la parole. Chaque semaine, on reviendra sur un film culte à redécouvrir ou à découvrir d'ailleurs. Et aujourd'hui,
eh bien, c'est Le Prix du danger que vous aviez évoqué en début d'émission. Le Prix du danger d'Yves Boisset, qui, contre toute attente, n'est pas une charge contre la télévision. Déjà parce que Boisset a beaucoup œuvré pour la télévision, les affaires Sesnec, Dreyfus ou bien des fictions pures, ainsi que des documentaires. C'est un média qu'il n'a donc jamais dénigré. Non, c'est plutôt en fait une mise en garde destinée aux téléspectateurs, du genre soyez vigilants vis-à-vis d'un média dont la course à l'audience serait le seul et unique but. Le film sort en janvier 83, on est donc loin d'avoir inventé le concept de télé-réalité qui truste aujourd'hui nos écrans. Boisset avait lu une courte nouvelle, 5 pages, signée Robert Sheckley, des années auparavant, mais genre 15 ans, et comme la première chaîne privée française, La Une, pour ne pas la citer, a moins de 10 ans d'existence, mais avait commencé à imprégner sa patte commerciale, surtout le PAF, il imagine donc les dérives potentielles, plus qu'il ne critique, même si bon nombre d'animateurs vedettes de l'époque prendront très mal le film et certains d'ailleurs ne le réinviteront plus jamais à l'avenir dans leurs émissions. On n'a pas le temps.
Peut dire en tout cas que c'est un film d'anticipation.
Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un film prémonitoire dans le sens où son modèle, c'est-à-dire le jeu de télévision de divertissement où l'on gagne de l'argent en survivant à des concurrents, allait devenir un standard du petit écran lors des décennies suivantes. Alors certes, quand on parle de survivre, dans Le Prix du danger, c'est au sens littéral, ce qui n'est pas encore le cas en télé-réalité. On en reste au stade du vocabulaire guerrier, du moins jusqu'à présent.
Et c'est Patrick Devers qui devait tenir le rôle principal à la base.
Oui, mais il était très fragile. Il s'est d'ailleurs suicidé l'année du tournage en 1982. Du coup, c'est Gérard Lanvin qui incarne ce chômeur qui espère changer de conditions sociales en participant à un jeu télévisé dans lequel il peut gagner donc 1 million de dollars s'il échappe à des poursuivants qui, comme les vaccins anti-Covid-19 avec le virus, n'ont qu'une ambition, le flinguer.
Mais est-ce que le film n'a pas un peu vieilli aujourd'hui ?
Dans sa forme, si, un peu. Parce que les moyens de filmer à l'époque étaient évidemment bien différents d'aujourd'hui et ils ont bien changé de nos jours. Mais sur le fond, le film reste très moderne, notamment grâce à Michel Piccoli, qui est impérial en animateur grandiloquent et qui développe une empathie totalement fourbe et calculée. On retrouve aussi Marie-France Pizier, Bruno Kremer, Sidney Cassouet. Mais aucun d'entre eux ne traversera l'Atlantique quand le film aura droit à son remake américain en 1987 sous le titre Running Man avec un certain... Arnold Schwarzenegger. Enfin, remake, attention, il faut le dire vite, parce que en fait, maintenant, on peut le dire, car pendant très longtemps, ce n'était qu'un plagiat. Yves Boisset s'est lancé dans un procès assez fleuve contre les Américains, qui avaient non seulement repris l'idée, mais carrément pompé des dialogues. 11 ans de procédure depuis Paris pour que la paternité du projet lui soit reconnue. Au bout du compte, l'argent gagné n'aura servi qu'à couvrir les frais d'avocat, mais au moins, l'honneur, lui, sera sauf. Et alors, pour compléter le tableau quand même, parce que ce qui est dingue, c'est que je vous invite vraiment à voir ou revoir donc Le Prix du Danger, puis Running Man, et ensuite Hunger Games, parce que c'est le même socle, c'est le même décorum. Ok, la saga Hunger Games est plus moderne, avec la multiplication des écrans, des moyens techniques, et plus directement destinée à un public jeune, mais vous noterez des similitudes plus énormes que les bouchons sur la 6 et la 7 dans le sens province-Paris en ce jour de transhumance. Courage, au passage. Et puisqu'on parle de la représentation de la télévision à l'écran, prenez par exemple rien que le personnage de Piccoli dans Le Prix du Danger. En passant par Richard Dawson, son homologue dans Running Man, jusqu'à Stanley Tucci et ses cheveux bleus qui joue l'animateur télé dans Hunger Games.
Qui est tellement bon dans Hunger Games.
Ce sont les mêmes, c'est carrément dingue. Ils ont les mêmes méthodes peu orthodoxes, mais certes très cathodiques de la télévision à sensation. Avec un cynisme croissant évidemment, car les temps se sont durcis. On peut donc conclure de manière tout à fait partiale, patriotique et arbitraire, que sans Le Prix du Danger d'Yves Boisset en 82, on n'aurait jamais eu l'occasion de voir Hunger Games 30 ans plus tard en 2012. Ça méritait d'être dit.
J'ai cru que vous alliez dire on n'aurait jamais eu Love Story.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.